Allez, on se retrouve sur l'antenne de Fréquence Paris Pluriel. Et ce soir, Cédric, dans Les Oreilles Loin du Front, on reçoit Maud Simonet. On va parler syndicalisme, mais alors avec d'autres horizons et d'autres pratiques.
Et oui, on va parler d'un syndicalisme méconnu, souvent caricaturé en France, c'est le syndicalisme américain. Et pour cela, on avait envoyé notre reporter de choc, Maud Simonet, donc sociologue et chercheur à l'Université Paris 10, qu'on a déjà reçu dans l'émission, puisqu'elle est spécialiste du travail, des frontières entre travail et bénévolat, de la précarité dans le monde associatif. Alors Maud, tu es allée à la rencontre de John Krinsky, qui est enseignant à l'Université de New York. Est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a amené à aller là-bas?
Oui, donc John Krinsky, il est à la fac publique de New York, donc à CUNY. Et il a fait sa thèse il y a quelques années sur le workfare à New York. Donc le workfare, c'est l'obligation pour les gens qui sont à l'aide sociale de travailler. Une obligation qui s'est étendue à l'ensemble du pays dans le milieu des années 90, hein, suite à la réforme de Clinton, mais qui était mise en place bien plus tôt à New York, ville précurseur en la matière. Une sorte de RSA. Et John donc, a étudié à la fois la mise en place de ces programmes et la manière dont ils ont été contestés, notamment autour de cette question du travail qui était fait par ces bénéficiaires donc, de l'aide sociale qui travaillaient donc, presque 40 heures par semaine pour 0 dollar hein, puisqu'ils touchaient simplement leur aide. Et il y a eu donc énormément de mobilisation autour de ce thème de l'usage finalement de ce travail gratuit, notamment par la municipalité de New York. Et donc il a documenté tout ça de manière très très précise. Et voilà, donc moi j'étais amenée à lire son travail et je me suis engagée avec lui dans une recherche sur l'entretien des parcs à New York où on trouve énormément de travailleurs du workfare depuis le milieu des années 90 qui remplacent donc des travailleurs municipaux et on trouve aussi beaucoup de travailleurs bénévoles donc qui sont un peu ma spécialité à moi. Donc on trouve nos deux types de travailleurs invisibles et gratuits. Donc on a lancé cette recherche et au cours de cette recherche, on a été amené à suivre une campagne syndicale et j'ai été très, très frappée de la différence dans les processus de syndicalisation, de ce que pouvait être un syndicat finalement aux États-Unis. Moi, je n'avais pas du tout travaillé là-dessus avant, en France. Et ça m'a marquée et du coup, j'ai eu envie de lui poser un petit peu cette question de voilà, qu'est-ce que c'est que le syndicalisme américain et peut-être de préciser notamment quel est ce personnage clé qui est l'organizer, hein, qui est un peu celui qui construit les mobilisations et qui est aujourd'hui une fonction rémunérée, professionnelle, professionnalisée, qui part des syndicats mais qu'on a retrouvé aussi dans le monde associatif. Donc voilà, et il est d'autant bien placé pour en parler qu'il a été lui-même organizer avant d'être sociologue ou en même temps et il en parle dans l'entretien des liens avec son propre travail de recherche.
Avant qu'on revienne là-dessus, on peut dire deux mots quand même sur le paysage syndical aux États-Unis. On vous y reviendrait dans l'entretien, mais comparativement à ce qu'on peut avoir en France où on a est-ce que cette dichotomie entre des syndicats plutôt du côté de la lutte des classes et des syndicats plutôt de dialogue et de compromis, c'est quelque chose qu'on peut retrouver qui ressemble ou pas?
Mais en fait, je crois qu'il le précise dans l'entretien parce qu'il connaît la situation française, donc il en parle un petit peu. Je crois que la grande différence, c'est que je crois que c'est ces termes dans l'entretien, beaucoup plus pragmatique et beaucoup moins partisan. Voilà les syndicats américains qui, au final, jouent moins de rôle au niveau fédéral, au niveau national. Mais par contre, le rapport de force, le rapport conflictuel, on le retrouve très fortement ancré sur le site de travail, dans les entreprises, là où se construisent les syndicats, en fait. Donc c'est vraiment ça, je crois, qui est la grande, grande différence qu'on peut retrouver. Ce qui fait que les syndicats sont effectivement à première vue, moins politisé, on va dire, que ce qu'on connaît en France. Et en même temps, la politisation de la question syndicale se joue vraiment, et moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment frappé effectivement, sur le terrain, dans le cadre de l'entreprise, notamment au moment où on cherche, où les travailleurs cherchent à implanter le syndicat, ce qui est loin d'être une chose évidente. Donc, il décrit un petit peu, et c'est là que ce personnage qui est l'organizer, effectivement, joue un rôle clé pour essayer de construire, finalement, le syndicat et la syndicalisation des travailleurs. Donc, je crois que ça, c'est une des grandes, grandes différences. Maintenant, évidemment, il y a des moments dans l'histoire américaine. Là, par exemple, il y a eu une forme d'alliance un petit peu entre les syndicats, les grands syndicats américains et Obama, hein, finalement un retour du lien entre les syndicats et les démocrates qu'on n'avait pas vu depuis un petit moment. Et c'était aussi une des raisons pour laquelle on avait dit que c'était intéressant de réfléchir sur cette question syndicale aujourd'hui, c'est qu'il y a une actualité en fait en ce moment aux États-Unis autour d'une loi que Obama a un peu promis de faire passer, mais donc les syndicats l'attendent, qui cherche à réformer les procédures de syndicalisation et notamment qui cherche à réprimander un peu plus toutes les campagnes antisyndicales mises en place par les patrons, qui sont assez incroyables. Voilà, il y a tout un business qui s'est monté là-dessus. Et donc, j'en profite pour dire qu'on prépare, dans le cadre de l'Institut européen du salariat, on prépare donc une note sur cette question de l'Employee Free Choice Act, donc ce projet de loi qui vise à réformer la syndicalisation, qui devrait sortir d'ici un mois ou deux. Et voilà, donc je pense que c'était intéressant d'avoir cet éclairage de quelqu'un qui est spécialiste et qui, en plus, est un acteur aussi de ces questions-là.
C'est une note qu'on pourra retrouver sur le site de l'Institut.
Tout à fait, oui. www.ies-salaria.org.
Voilà. Voilà, donc on va partir pour New York en 22 000 MHz. Vous verrez qu'il y a quelques différentiels dans les modes de compression aux États-Unis qu'en France. Ça donne un son un petit peu métallique, mais c'est ça aussi le grand reportage.
Et John a aussi comme qualité de parler le français.
On ne connaît pas très bien les syndicats américains et leur fonctionnement en France. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le système de l'organizing?
Oui, c'est des... deux choses distinctes, quoi, le système des syndicats et l'organizing, mais ils sont naturellement liés. Je commence avec l'organizing parce que ça, c'est plus simple, je crois, de l'entrer par là. Organizing, c'est d'un côté tout simplement faire un organisme pour donner le pouvoir aux peu puissants. On peut dire peu puissant, personne, ouais. Bon, et c'est développé aux syndicats ainsi qu'aux associations du quartier, mais il est développé comme un métier de l'organiseur, comme organisateur, on peut dire, dans les syndicats, et puis il s'est déplacé aux associations. Il y a quelques modalités d'organizer. Ça commence avec l'identification des travailleurs qui ont déjà l'autorité au lieu du travail et qui sont déjà les leaders. Et les donner des ressources d'organiser formellement les autres. Et il y a beaucoup de gens dans le mouvement syndical qui croient que ce modèle est le plus fort parce que ça ne donne pas le pouvoir aux autres hors du lieu du travail. Et pour eux, c'est très important de garder le pouvoir et au sein du site du travail. Et alors, il y a un autre, et ça commence quand quelqu'un au site du travail appelle le syndicat. Et le syndicat donne un organizer à l'effort local. Quelqu'un dans une site du travail ou dans une entreprise qui s'intéresse au syndicat et s'intéresse au promis d'un lieu du travail meilleur et de travaille avec l'organisateur pour trouver par le réseau du travailleur les autres membres potentiels. Et d'habitude, dans ce mode d'organiser, c'est dur de dire, le premier contact avec la plupart des travailleurs, ce n'est pas au lieu du travail, mais chez eux, chez les travailleurs. Et ça, c'est très important parce que c'est loin des yeux des chefs. Et c'est à l'abri, on peut dire c'est à l'abri un peu. Et là, on fait beaucoup de réunions one-on-one ou un sur un avec l'organisateur. Et je dis l'organisateur, l'organiseur, c'est pas grave, mais avec l'organiseur et le travailleur pour chercher les problèmes aussi du travail, L'organisateur, il veut savoir qu'est-ce qui se passe parce que il a accès aux ressources, mais il faut que l'organisateur savoir lesquelles sont mieux appliquées au problème aussi du travail. Alors, c'est pas totalement différent entre les deux modalités, mais la seconde, c'est plus professionnel. Mais c'est un problème aussi. Il y a des problèmes avec la professionnalisation ou de l'organizing, on peut dire. Mais en même temps, l'organisation syndicale est très liée avec les lois qui gouvernent les relations industrielles. Et c'est très important parce qu'aux États-Unis, les lois viennent des années 30, de l'époque du New Deal. Et pour beaucoup des travailleurs, pas pour tous. Selon la loi, les entreprises doivent négocier avec le syndicat si le syndicat gagne une élection parmi les travailleurs dans la firme. Mais en plus, les travailleurs doivent avoir des intérêts communs au travail. Ce n'est pas normal, par exemple, d'avoir un syndicat qui mêle des travailleurs supervisants avec des autres, par exemple, ou des travailleurs qui fait des choses très très, très différentes. Il y a aussi deux modèles historiquement. Il y a on dit craft, les syndicats de craft ou du métier et les syndicats industriels. Et les syndicats du métier sont moins généraux que les syndicats industriels. Le premier pas à l'élection est de faire signer les travailleurs aux cartes d'autorisation. Et c'est le grand pas du travail de l'organisateur au début d'une campagne. Et au moins de 51% des travailleurs doivent avoir signé ces cartes pour que le syndicat ait le droit de demander une élection. Et entre le temps de l'appel de l'élection et l'élection même, il y a beaucoup de temps pour les chefs de décourager les travailleurs de se joindre au syndicat et de voter pour le syndicat. Et même que l'intimidation directe est interdite, c'est très très difficile de le corriger si elle se passe. Et dans cette étape on peut dire dans cette étape de la campagne, le travail des organisateurs change un petit peu parce qu'il faut garder le soutien parmi les travailleurs, mais à l'autre côté, il faut diviser les stratégies avec son organisation plus grande contre les chefs. Et il y en a plein. Il y en a beaucoup de stratégies de publicité et tout ça. Mais j'ai dit que c'est très difficile de corriger l'intimidation d'arrêter l'intimidation des chefs ce temps entre l'appel de l'élection et l'élection même. Il faut avoir un comité des relations industrielles, on dit aux États-Unis, c'est le National Labor Relations Board. Et c'est un comité qui gouverne pardon, les relations industrielles dans tous les États-Unis au secteur privé. Mais il faut avoir un comité qui est sympathique aux travailleurs et dans beaucoup d'administrations, il n'y en a pas. Et c'était le cas, c'était absolument affreux pendant les années de Bush, par exemple, et de Reagan aussi, parce que le comité national des relations industrielles a été complètement anti-travailleur. Et toutes ces décisions étaient anti-travailleurs. Et c'était. Alors, c'était facile pour les chefs de se battre contre les syndicats. Et c'est à cause de ça, un peu, non pas un peu, on peut pas dire le ratio, le pourcentage, mais l'anti-syndicalisme du comité a fait et le et un est un est une cause très significante de la baisse de syndic des de la on dit densité syndicale. On dit ça,
On comprend.
on comprend. Alors, le pourcentage des travailleurs qui sont syndiqués, quoi. Alors, c'est bien différent par rapport à la France, parce que dans beaucoup d'industries, les travailleurs sont membres d'un syndicat ou un autre. Par le fait que le syndicat a négocié un contrat collectif avec l'entreprise. Alors, les syndicats ne sont pas politisés comme en France. Il n'y a pas de syndicat communiste ou syndicat socialiste ou syndicat chrétien. Ce n'est pas comme ça aux États-Unis. Parce que les syndicats, on est membre d'un syndicat par son lieu de travail. Et je crois que c'est bien différent. Et ça ne veut pas dire que beaucoup des syndicats ne prennent pas les positions politiques ou que les syndicats ne soient pas l'épine de beaucoup de la politique progressive aux États-Unis, mais ils sont plutôt plus pragmatiques et moins partisans que les syndicats français. Alors, en tout cas, construire un syndicat organisé, c'est un mélange de convaincre les travailleurs aux bénéficiaires d'être syndiqués et de se battre contre les chefs et sa propagande antisyndicale avec les ressources de l'organisation plus grande. Alors, ça, c'est pas très différent, je crois. Mais tout est orienté sur le contrat collectif. Et il n'y a pas plusieurs syndicats qui sont consultés ou qui négocient pour les travailleurs dans un lieu du travail. Il y a un seul syndicat et c'est différent. Alors, les liens entre l'organisateur des syndicats et des associations, pour les deux, les syndicats et les associations, l'organisateur veut de se rendre superflu. C'est le but d'organiser. Si on a du succès comme organizer, on se rend superflu. On construit un organisme qui peut fonctionner sans organizer. Et c'est une chose qui est assez difficile parce que avec ces liens avec l'organisation plus grande du syndicat Et ça, ces liens avec l'organisation donnent à l'organisateur des ressources, du pouvoir. Et les ressources, même si ce n'est pas une question de garder le pouvoir, c'est différent d'avoir les liens forts avec l'organisation comme un organisateur professionnel et d'être leader d'un groupe local. Mais en même temps, il est important que pour le syndicat, que l'organisateur peut faire des autres organismes aux lieux différents. Et c'est le modèle, et ce modèle de l'organisateur professionnel, c'est le modèle qui était adapté par quelqu'un qui s'appelle Saul Alinsky. Et Saul Alinsky était dans les années 30. Et Saul Alinsky travaillait comme organisateur pour le CIO, c'est le Congrès des organisations industrielles. C'était l'organisation des syndicats industriels aux années 30 et il se rejoint avec la Fédération américaine du travail, le AFL, dans les années 50. Alors, on dit le AFL-CIO. Alors, Saul Alinsky travaillait comme organisateur syndical, mais à l'époque, les organisateurs les organisateurs pour le CIO étaient les plus énergétiques étaient des communistes ou très très prochement proche du Parti communiste. Et Alinsky, n'était pas marxiste, il était communiste et il n'était pas communiste. Et il aimait pas que qu'il pensait que les communistes savent toujours mieux que les travailleurs. Il y avait une sorte de condescension,
Condescendance.
pardon, condescendance, je le fais de l'anglais, condescendance idéologique entre les organisateurs communistes et les travailleurs. Il n'aimait pas ça. Mais la chose qui était intéressante, c'était que il trouver que le potentiel radical ne restait pas seulement au lieu du travail. Et il trouvait que la concentration de l'énergie d'organizing, de l'organisation au lieu de travail manquait quelque chose. Et il a déplacé le modèle d'organizing aux associations du quartier. Et maintenant, il y a quelques réseaux, cinq, je crois, quatre ou cinq réseaux très, très grands aux États-Unis, des associations du quartier qui utilisent d'un part ou un autre ou de plus ou moins le modèle qui était Non, je sais pas le mot en anglais non plus. qui était fondée quoi par Alinsky, Alinsky. On peut dire Alinsky.
Tout à fait.
Mais le modèle d'Alinsky, ça diffère un peu du modèle de. C'est une mélange des modèles d'organizing des syndicats parce que Alinsky, il voulait trouver les leaders dans les quartiers. Mais il dit que les leaders sont pas toujours les leaders officiels. Il faut trouver les gens qui sont respectés par les autres, qui aident les autres, qui sont les leaders. Mais il trouvait aussi que beaucoup de temps, bien sûr, c'était pas les leaders politiques, mais il travaillait beaucoup, beaucoup avec les religieux et les leaders religieux. Maintenant, c'est intéressant parce que les organisations, les religieux, les églises, les synagogues, les mosquées, tout ça, souvent, il fait beaucoup, beaucoup de services dans les quartiers. Et c'est pour ça qu'il y a aussi des liens de dépendance entre les gens qui habitent les gens du quartier et ces organisations. Mais il y a aussi beaucoup de potentiel parce que les gens du quartier sont aussi des membres de ces organisations. Mais il y a des tensions entre les deux rôles. Les organismes qui sont fondés par Alinsky et par ses étudiants ne sont pas toujours des organismes progressifs. Pas toujours, mais parce que sans, et c'est intéressant, je crois, parce que sans l'idéologie, parce que Alinsky, il voulait pas que son modèle d'organisation soit idéologique. Mais comment ça, c'est possible? C'est pas possible. Mais il a évité la discussion de l'idéologie. Il a promoté, on peut
promu.
Promu. Merci, c'est la grammaire. Hein. Il a promu un modèle pragmatique, mais c'est pour donner les gens le pouvoir. Le pouvoir des gens. People power.
Aux gens.
Aux gens, pardon. Ouais. Le pouvoir aux gens, mais ça vient aussi des gens. Et c'est donner le pouvoir aux gens et de mobiliser le pouvoir des gens. Alors, c'est assez populiste. Et comme tout le populisme, ça peut être le populisme du droit ou le populisme de gauche, hein, de la gauche. Souvent difficile sans des lunettes idéologiques, hein, c'est souvent difficile de de trouver la différence entre les deux. Mais maintenant, c'est intéressant parce que pendant les années 50, 60 et même les années jusqu'aux années 90, le mouvement syndical aux États-Unis était assez dormant, a manqué beaucoup de monde, pas manqué,
Perdu.
a perdu beaucoup de membres, beaucoup de pouvoir, et il y avait dans les années 60 des gens qui ont travaillé comme organisateurs dans les quartiers, et puis ils ont commencé à travailler avec les syndicats. Et c'est ce cadre des gens dans le mouvement syndical qui ont gagné à mesure du pouvoir dans les années 90. Et ils ont pris quelques modèles qui mêlent l'organisation du quartier et l'organisation du travail. Et ben, l'organisation du quartier, c'est plus ouvert, c'est plus ouvert, plus flexible parce que c'est pas réglé comme les campagnes que j'ai décrites au lieu de travail. Et ils ont aussi adapter les stratégies des mouvements sociaux comme le mouvement des Noirs pour les droits civils. Et ce mouvement était très 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 important aussi pour la mélange des stratégies du mouvement pour les droits civils et le modèle d'Alinsky. Et ce mélange était très très important pour organiser les agriculteurs, les travailleurs en Californie d'agriculture dans les années 60 et 70. Parce que aussi c'était pas réglé, c'était ça ce ah, pardon cette campagne était réglée par les autres règles parce que les travailleurs agriculturels n'étaient pas couverts par la loi nationale des relations industrielles des années 30. Alors, ils étaient la plupart des immigrés, des immigrés. Alors, il fallait les organiser autrement. Il fallait trouver un mélange des stratégies. Et ce mélange a été appliqué plus ou moins aussi dans les années 90 à la campagne de y a un syndicat qui s'appelle SEIU ou c'est le syndicat des employés des services. Ils ont fait une grande campagne en Californie. D'abord, je ne sais pas où c'était d'abord, mais ils ont fait une grande campagne en Californie, à Los Angeles, qui s'appelait Justice for Janitors, ou la justice pour les gardiens, les gardiens, oui. parce que beaucoup des gardiens étaient les immigrés ou aussi des Noirs très très pauvres. Ils ont mêlé aussi ces stratégies. Il faut dire aussi, c'est une histoire, c'est une histoire de ou un modèle de la relation. Il faut dire aussi que pour tout la siècle 20, le 20e, tout le 20e siècle, pardon, avant tout le 20e siècle, les groupes radicaux ont organisé beaucoup de ces, même comme Alinsky, il a réagi contre les communistes au CIO. Il y avait beaucoup, beaucoup de groupes radicaux qui ont organisé et qui ont fait des organismes, pardon, associations de quartier et les autres organismes du mouvement et tout ça. Et ils ont, comme les associations locataires. Et c'était les associations des locataires étaient très très forts dans les villes comme New York et Boston, San Francisco et tout ça. Alors, avec Alinsky ou sans Alinsky, il y avait des organisations du quartier, des organisations, des associations de locataires et tout ça. Mais c'est Alinsky qui a fait un modèle et qui a rendu le métier d'organisateur des associations un métier.
I can love you, boy. I can love you, girl. I can love you, poor. I can love you, rich. I can love worker. I can love artist. 'Cause I am la petite communiste. I can love you, boy. I can love you, girl. I can love you, poor. I can love you, rich. I can love you, worker. I can love artist. I can love you, boy. I can love you, girl. I can love you, poor. I can love you, rich. I can love worker. I can love artist. 'Cause I am la petite communiste. I can love you, boy. I can love you, girl. I can love you, poor. I can love you, rich. I can love worker. I can love artist. 'Cause I am la petite communiste. I can love you, boy. I can love you, girl. I can love you, worker. I can love artist. I can love worker. I can love artist. La petite communiste, 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 la petite communiste.
Mais c'est un métier que tu as exercé, toi. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ton rôle d'organizer et de l'influence que ça a eu sur tes recherches par la suite?
Oui. Bon, je n'étais pas organisateur pour longtemps, mais j'ai travaillé comme organisateur avec le mouvement contre le sans-abrisme, on peut dire, pas contre les sans-abris, mais contre les conditions qui produit les sans-abri. Dans les années 80 et 90, au début des années 90. Et c'était très difficile de faire un organisme avec ces gens-là parce que les sans-abri, bon, sans abri. C'est difficile de faire un réunion un sur un chez eux parce qu'ils n'ont pas d'habitation. Et moi, j'ai fait des réunions dans les terminaux et avec une soixantaine, soixante-dizaine des personnes. D'abord, contre l'harcèlement des policiers, parce que c'était un problème très, très grave. Les policiers du transport à Philadelphie, ils ont fait le sport avec les sans-abri qui habitaient au terminus suburbain.
La gare, tu veux dire
À la gare, pardon, à la gare, mais c'est le, c'était le terminus. Le problème qui est du point de vue d'organiser un organisme, un des problèmes les plus difficiles, c'était que nos leaders n'étaient pas sans abri nécessairement pour longtemps. C'était un statut transitoire et il y avait beaucoup de turnover. Et comment faire un organisme avec les gens qui, quand ils sont sans abri, ils peuvent dire que moi je suis sans abri et j'ai des droits comme personne qui est sans abri. Mais en quelques instants, quelques semaines, ils sont plus sans abri et il est maintenant un locataire pauvre et ils ont des concerns différents. Et comment faire la solidarité? Et la solidarité, c'est, alors, un problème, c'était le turnover. Un autre, c'était la stigmatisation des sans-abri. Parce que personne ne voulait dire vraiment « je suis sans-abri ». Et quand on parle avec les gens qui sont sans-abri, beaucoup disent « non, je ne suis pas vraiment sans-abri, j'attends seulement pour un appartement, ça viendra dans quelques semaines, maintenant je ne suis pas vraiment sans-abri ». Et c'est difficile de trouver le fond de la solidarité les uns avec les autres et en plus avec les gens qui étaient sans abri, les ex sans abri. Mais si on pouvait le trouver, c'est une question stratégique parce que si c'était possible de se rejoindre avec le mouvement, parce qu'il y avait un mouvement des locataires et de se battre contre les structures et des systèmes urbains qui produisent le sans-abrisme. Ça, c'est, on pouvait être plus fort. Mais on n'a pas réussi. Vraiment, on n'a pas réussi. Alors, quand je suis revenu à New York, c'était en Philadelphie. Je suis New-Yorkais quand je suis revenu à New York. Et j'ai travaillé avec des. J'ai fait un master's en urbanisme et puis j'ai travaillé avec un groupe qui plaidait pour l'habitation abordable. Alors j'ai fait le pas de mouvement de sans-abri au mouvement de locataires, mais à ce temps-là, le mouvement des sans-abri désintègre.
C'était désintégré.
C'est désintégré parce que il y avait beaucoup de causes, mais j'ai continué à penser de ces problèmes organisateurs. Quand j'ai fait mon degré, mon doctorat, ça a été planté dans ma tête, ça restait dans ma tête. Un des groupes qui, c'était intéressant historiquement, un des groupes qui a organisé les locataires et fait aussi des coopératives abordables pour les gens pauvres en Brooklyn. Le dirigeant, il m'a dit, ah, ben, nous commençons à une campagne nouvelle d'organiser les gens qui sont soumis à Workfare. Alors, c'est quoi ça? J'ai dit, il m'a dit, le Workfare, c'est quand les gens qui sont les bénéficiaires de l'aide publique, ils doivent travailler pour toucher ces allocations mensuelles. Ben, alors, ils travaillent, oui. Oui, ils travaillent, mais ils ne sont pas des employés. Le workfare, c'est construit comme les bénéficiaires de l'aide publique donnent leur compensation au public pour ces allocations avec leur travail. Alors, ils n'ont pas des droits, ils n'ont pas congés, les jours de congé, tout ça. Ils sont presque des esclaves. Waouh, j'ai dit, c'était pas longtemps que j'ai décidé de faire mon doctorat sur les questions d'organiser ces gens, parce qu'il y avait aussi beaucoup, beaucoup de liens entre entre les problèmes d'organiser les sans-abri et les gens à Workfare. D'abord, les deux sont stigmatisés, les deux sont très très pauvres, et bon, beaucoup des gens qui étaient dans le Workfare étaient sans-abri aussi. Et aussi, il y avait beaucoup beaucoup de turnover. De turnover parce que la discipline aussi du travail était assez dure et aussi les règles qui gouvernent la soumission au travail étaient très dures. Alors, il y avait beaucoup, beaucoup d'occasions de jeter les gens de l'assistance publique. Alors, il y avait beaucoup de turnover, et aussi il y a beaucoup de turnover normal on peut dire les rôles de l'assistance, les listes d'assistance, parce que les gens les bénéficiaires, ils trouvent du travail et ils laissent les listes. Et aussi, une autre chose, c'était que comme il y avait des locataires qui sont pauvres, mais un peu plus établis comme locataires, il y avait aussi des autres travailleurs publics pour la ville de New York qui étaient pauvres, mais un peu plus établis. Et comment faire la solidarité entre les travailleurs de Workfare et les travailleurs normaux? Et ça, c'est le lien entre ma vie comme organisateur et mon travail académique, quoi.
Tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton livre sur le workfare et ce que tu as étudié autour des débats et des combats sur le workfare à New York?
J'ai étudié y avait quelques programmes de workfare des années 70, au commencement des années 70, sous président Nixon. Il y avait le workfare, le mot workfare, c'est un mélange de work et welfare, ou travail et l'assistance. J'aime bien dire travestissance. Mais c'est comme ça, c'est comme ça. C'est un néologisme. Mais le workfare était institué dans les années 70, avec des expériments. On a fait des expériments. On a fait des expériments de la politique sociale. Mais ce n'était pas un grand programme. Mais quelques années plus tard, il y avait une grande crise fiscale à New York, et dans beaucoup des autres villes aux États-Unis. 75 jusqu'à 80 à peu près. Le workfare a été augmenté un peu parce que si les gens qui travaillent reçoivent seulement leur allocation mensuelle pour travailler une semaine normale, c'est beaucoup, beaucoup moins cher que les travailleurs normaux qui sont syndiqués, qui sont protégés par les lois. Et c'est pour ça on a réduit beaucoup le workforce,
Force de travail.
la force de travail, bien sûr. On a réduit beaucoup la force du travail public pendant la crise fiscale. On a utilisé beaucoup plus les travailleurs de workfare. Il y avait aussi des efforts d'organiser. Mais ce n'était pas avec plein cœur, on peut dire, parce que ce que les syndicats veulent à ce moment-là, c'est d'avoir pas les membres pauvres de Workfare, mais d'augmenter les occasions pour ces membres qui ont qui étaient laid off,
licenciés.
Oui. Et alors c'était pas l'effort, c'était pas en pleine gare. Mais et aussi les syndicats à l'époque que j'étudiais, c'est les années 90 jusqu'à maintenant à peu près, les syndicats n'étaient pas à l'avant-garde du mouvement contre le workfare. C'était les associations du quartier et les autres associations pour les droits des pauvres et contre le sans-abrisme et le faim. Et moi, je le trouvais curieux parce qu'il voulait organiser les travailleurs de Workfare comme un syndicat, mais ils n'étaient pas syndicats et les syndicats ne veulent pas les toucher. Alors, pour moi, c'était très, très intéressant parce que ça... Il y avait la question, est-ce que les travailleurs de Workfare sont des vrais travailleurs? Et ce n'était pas tout à fait clair. Ce n'était pas clair dans la loi. Ils avaient quelques droits des travailleurs et ils n'avaient pas quelques autres. Et ça, ce n'était pas établi pour toujours. Il y avait beaucoup de luttes. Hein. Et moi, je m'intéressais surtout sur cette question. Comment le statut des travailleurs de Workfare était établi et désétabli et on peut dire réétabli dans cette lutte. Et moi je m'intéressais aussi dans la question qu'il y avait quelques niveaux d'analyse. Alors, ce n'était pas seulement une question de la langue, c'était aussi une question de l'organisation, de la loi et aussi l'économie politique urbaine. Il fallait comprendre comment ces niveaux se mêlent, s'informent, parce que on peut vraiment rien comprendre si c'était seulement au niveau de la langue qu'on utilise pour décrire les travailleurs de Workfare. Et c'est pour ça que j'ai utilisé comme guide Gramsci, parce que dans son travail aux prisons, malheureusement, mais dans son travail, il toujours travaille avec beaucoup de niveaux d'analyse et mêle des questions de la culture, de la représentation, de la signification avec les questions structurelles, les questions économiques, politiques et les questions stratégiques. Et on peut pas les séparer. C'est bien dialectique, quoi. Et pour moi, parce que on peut dire que la question qui m'informe du début, c'était aussi une question dialectique. Parce que pour moi, la question dialectique, c'est aussi tout à fait pratique, c'est pas dialectique théorétique au nuage, quoi. C'est la question, je crois, je dis, c'est la question dialectique pour un organisateur. C'est comment représenter ou comment une groupe peut-il se représenter, pardon, comme ce groupe, avec l'identité de ce groupe public, pour abolir les conditions d'être ce groupe. Oui? Alors, pour les sans-abri, comment les sans-abri peuvent faire des demandes publiques pour abolir le sans-abrisme. Comment les workfare, les gens qui travaillent dans le workfare, les workfare workers, comment peuvent-ils faire des demandes pour abolir ce statut qui était comme l'esclavage? Formellement, hein, j'ai fait dans ce livre, j'ai fait une sociologie comparative du travail, des contrats différents de travail, et on peut dire que formellement, il y avait beaucoup, beaucoup de choses de ce statut de workfare qui sont très, très proches de le statut de l'esclavage. C'est pas poli de dire ça, et surtout parce que le workfare est très populaire comme programme. Et ça reste assez populaire comme programme aux États-Unis. On dit maintenant avec le programme de stimulation, relance d'Obama. Il y a dans ce programme, il y a quelques phrases qui disent que les États peuvent enlever quelques règles qui forcent les gens dans le qui forcent les bénéficiaires de l'aide publique au travail. Et beaucoup des journaux, les éditeurs des journaux, ils ont écrit: oh non, c'est pas une bonne idée. Le cœur du succès de la réforme de l'aide sociale aux États-Unis, c'était le workfare. Mais je trouve qu'à New York, peu à peu, dans les années 90, les conditions et les règles spécifiques du workfare ont été délégitimisées par le mouvement. Plus peut-être que le mouvement savait à l'époque. Mais c'était pas un succès très très grand. Mais la chose curieuse, c'est que les partisans de Workfare ont dû laisser New York et de plaider pour les programmes de Workfare plus dur à Washington. Parce que c'était au niveau local, je crois, les choses spécifiques, pas la rhétorique, générale, mais les choses de la programme qui y avait à New York étaient délégitimisées parmi beaucoup, beaucoup de gens. On peut dire, tu es en faveur de Work for All. Ben oui, c'est le cœur de la réforme de l'aide sociale. Mais qu'est-ce que tu penses de la faute des jours de congé? Qu'est-ce que tu penses de que les travailleurs de Workfare sont pas couverts par maintenant ils sont couverts parce qu'il y avait un procès juridique, mais c'était pas couvert par les lois contre le harcèlement sexuel ou racial. Qu'est-ce que tu penses de ça? Oh non, c'est affreux, je savais pas. Et c'est comme ça c'est comme ça que la lutte contre le workfare a eu des succès, mais pas les succès très très grands. C'était vraiment une guerre de position, comme dit Gramsci.
Ben, merci beaucoup, John.
Rien.
Voilà, c'était donc John Krinsky, qui était interviewé par Maud. Ça se passait à New York, d'où ce délicieux petit son, un petit peu métallique, si typique de la capitale. Enfin, de la grande ville états-unienne. Voilà, j'ai raté ma blague. On retrouvera le John Krinsky le 2 septembre, puisqu'on fera notre rentrée. Dans cette émission le 2 septembre, et on diffusera à cette occasion-là une conférence qui aura été donnée par John Krinsky à l'Institut européen du salariat, et on retrouvera un petit peu la suite des aventures auxquelles on a pu assister ce soir. Ah, ça c'est sûr, c'est nous qui avons le plus beau générique. Quand on est à du monde, on fait de l'ouvrage. Ce soir, autour des micros, autour des boutons, pour réaliser cette nouvelle édition des Oreilles Loin du Front, on retrouvait en 22 000 MHz et dans un format de compression hautement compressé notre reporter de l'impossible, c'était Maud. On retrouvait aussi celui qui se la joue, le rare et précieux Jérémy. Tu reviens quand tu veux, Jérémy. Amsterdam, Bangkok, Sydney, Buenos Aires, Rio, New York, Mexico, Montréal, Virzon, Montréal et finalement Paris, Stalingrad, rue d'Aubervilliers, c'était Juliette. Cinéphile, bibliothécaire, syndicaliste, bédéphile, communiste, autogestionnaire, elle a toutes les qualités, il ne lui manquait plus que la parole. Ce soir, c'était Sophie. Elle a du coffre, de la voix, c'est un petit peu la Patricia Cass de la radio libre et indépendante. C'était Aude. Il y avait aussi celui qui peut, par la simple puissance de sa pensée matérialiste historique, transformer une pomme de terre en frites. C'était Cédric. Et puis, dans le rôle de la pizza 4 fromages, on retrouvait Rosa. On se retrouve la semaine prochaine pour une émission drôle. Drôle, très drôle, tellement drôle, puisque nous jouerons à notre fameux jeu de fin d'année. Question pour un champion de gauche. D'ici là, on vous abandonne dans les bras de Claudie et Claudia, puisque Antanan arrive. Ciao!